Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Aglété, de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'Actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. L'épisode du jour de l'Actu dans la poche vous est présenté par Gabriel Taïeb.
Au début du mois d'avril, le réseau de cinéma indépendant Utopia a dévoilé au grand public son projet d'ouvrir un nouveau cinéma dans le château Palmer de Senon via une campagne de financement participatif. Toujours active, la campagne, hébergée par la plateforme Ulule, connaît depuis un franc succès, témoignant d'un intérêt certain pour l'initiative. Annoncé comme un cinéma de proximité, populaire, accessible et durable, le projet se présente comme une alternative à un modèle qui arrive à bout de souffle. C'est au sein de l'Utopia Bordeaux que nous accueille son gérant actuel, Vincent Erlenbach, pour nous esquisser les contours du futur cinéma Utopia Palmer.
Je m'appelle Vincent Erlenbach, je suis à Utopia Bordeaux depuis 2007 et je suis actuellement le gérant d'Utopia, mais j'ai derrière moi toute une équipe fidèle et très stable puisque Utopia Bordeaux est une SCOP, c'est une société coopérative, donc ça veut dire une équipe très investie et on est donc 11 collaborateurs, enfin salariés coopérateurs, à mener Utopia Bordeaux et bientôt Utopia Palmer.
Alors les Bordelais connaissent bien le cinéma Utopia Bordeaux situé dans l'ancienne église Saint-Siméon, sans forcément connaître l'histoire des cinémas Utopia qui a commencé dans les années 70 avec un projet bien précis et une identité forte. Est-ce que vous pouvez revenir sur les origines de l'Utopia? Est-ce que vous proposez? Quelle est votre identité?
Ouais, bien sûr, pour nous d'ailleurs c'est quelque chose qui nous est très cher. Hein. Ces origines restent quand même des gènes qui sont très importants, auxquels on revient régulièrement et dont on essaie de garder la modernité et la pertinence qu'il y avait dans les années 70. Les années 70 dans le cinéma, l'exploitation comme on dit, ce qui n'est pas un très joli mot, mais dans l'exploitation du cinéma, c'est un moment où la télé a fait énormément de ravages. Les années 60, la chute de fréquentation des cinémas est énorme. Et les années 70 vont être un espèce de moment assez charnière avec tout ça. Mais à l'époque, pas de films du monde entier, essentiellement des films américains ou des films français. Pas de VO en province. Hein, tout ça c'est de la VF, il faut aller chercher les copies à Paris, etc. Et là, on a quelques fidèles qui sont regroupés autour de Anne-Marie Faucon et Michel Malacarné, qui sont les fondateurs d'Utopia, qui se lancent dans une espèce de ciné-club, en fait, à Aix-en-Provence, le 1635, qui va marcher. Voilà, avec des idées, effectivement, de diffusion d'un cinéma indépendant, d'un cinéma de qualité, d'un cinéma en VO, d'un cinéma ouvert sur le monde, avec des cinématographies qui viennent de partout, d'Asie, d'Afrique, quand on peut, à l'époque, d'Amérique du Sud, des choses qu'on ne voyait assez peu et ou quasiment pas en province à l'époque. Et puis c'est aussi l'idée d'accompagner tout de suite chez Anne-Marie et Michel, d'accompagner le cinéma par une résonance avec la société. Voilà, ça c'est très fort en fait chez eux. L'histoire après d'Utopia est assez longue puisque le 1635 a des déboires, il y en a pas mal d'autres qui ont des déboires, mais après on se fixe quand même largement en 1976 en ouvrant Utopia d'Avignon. Et là c'est la grande aventure qui commence. Le cinéma finit par trouver son rythme de croisière, probablement dans les années 80. Et puis là on a la naissance de plusieurs Utopias, donc pour répondre à la question, c'est aussi un réseau de cinéma indépendant en fait. Utopia, on a un réseau qui s'agrandit donc en 80, milieu des années 80, 86 à Saint-Ouen-l'Aumône et Pontoise dans la banlieue de Paris, et puis après ça se poursuit avec Toulouse, avec Tournefeuille, avec Bordeaux, avec Montpellier et tout dernièrement avec Pont-Sainte-Marie, le cinéma prototype écologique qui est né à la fin de l'année 2022 en banlieue de Troyes.
Par rapport à l'aspect social, un terme qui revient beaucoup dans votre communication, c'est un cinéma populaire. Qu'est-ce que ça veut dire un cinéma populaire?
Ça va dans le sens où le cinéma résonne justement avec la vie des gens, où c'est pas du tout contraire à la notion de divertissement qui est souvent brandie comme ça de manière assez aléatoire. On peut tout à fait faire quelque chose de divertissant, mais de tout à fait actif dans la résonance que ça a avec nos vies, avec nos façons de concevoir les choses. Un cinéma populaire, pour nous, c'est un cinéma qui vit avec des soirées débats, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on propose un film, et ce film est l'occasion de discuter des champs qui sont abordés dans le film, sur le fond comme sur la forme. Et la deuxième chose, Il y en a certainement d'autres, mais c'est le tarif. Enfin, c'est très, voilà, ça peut pas faire un cinéma populaire si on le fait trop cher. Et là, je pense que l'impact des multiplex a été extrêmement, extrêmement fort dans les années 90, là, de ce point de vue-là. Et on a vu le cinéma, et alors ça prend une tournure carrément énorme, là, dernièrement, avec la premiumisation, etc. C'est plus possible de proposer un cinéma, si on veut qu'il soit populaire, avec des tarifs prohibitifs. On n'a jamais du tout participé à tout ça. On préfère avoir un nivellement assez égalitariste au niveau des tarifs, avec des tarifs moyens, voire, on espère, le plus bas possible, en tout cas pour tout le monde. Voilà, ça c'est un cinéma qui est aussi populaire, dans ses moyens.
Le projet de l'Utopia Palmer a germé en 2019, après une proposition de la ville de Senon. Pourquoi est-ce que ce lieu vous a attiré en particulier ?
Eh bien là, c'est venu comme souvent, c'est une bonne méthode qu'on aime bien, c'est le facteur humain. Le facteur humain qui nous a amené à des rencontres, en fait. On travaille depuis longtemps avec le Rocher de Palmer, avec Musique de Nuit, avec Patrick Duval, son programmateur. Depuis 2016, nous, on propose des séances hors les murs, donc Utopia programme des films, évidemment en collaboration avec le Rocher, dans les salles du Rocher, entre 3 et 4 fois par an. Ça a cartonné. En tout cas, c'est super intéressant. On s'est dit, il y a des gens qui sont vraiment prêts à se saisir du cinéma pour proposer des choses chouettes. On a évidemment découvert une population qui ne vient pas forcément ici, dans le centre de Bordeaux. Et puis, on s'est dit, continuons. À tel point qu'à un moment, avec Patrick Duval, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? À un moment, les gens de la mairie, qui étaient quand même partie prenante de nos actions, sont mis autour de la table, grâce aussi à Patrick Duval, à l'entremise de Patrick Duval, et nous ont dit, est-ce que ça vous intéresserait de réfléchir à un lieu sur la rive droite, à ce nom, pour monter un petit cinéma, un cinéma de proximité, puisqu'il n'y a rien sur la rive droite. Et c'est là qu'on a fait un petit tour d'horizon des bâtiments qui pouvaient être disponibles, et qu'on est tombé sur le château Palmer que la mairie possède. Le 31 mai, vous avez lancé votre Ulule, votre campagne de financement participatif. Pourquoi avoir fait le choix d'un financement participatif et à quoi va servir l'argent récolté ? Alors le choix du financement participatif, il est multiple. Pour nous, évidemment, c'est d'abord, on va pas se le masquer, c'est une possibilité de financer une partie des travaux de conception. Et là, on est seul dans ce financement-là. C'est-à-dire qu'avant que vous ayez un projet qui soit bien défini, avant de pouvoir le présenter à votre banque, à vos partenaires financiers, aux collectivités territoriales, il faut que vous ayez avancé là-dessus. C'est pas nouveau, tout le monde fait ça. Donc là, on porte ce projet, effectivement, c'est Utopia Bordeaux qui porte ce projet seul. Donc, le coup de pouce avec des spectateurs et des spectatrices qui sont motivés pour nous suivre devenait assez essentiel pour notre économie. On va pas mettre Utopia Bordeaux à mal pour mener un projet qu'on a vraiment cœur à mener. Donc j'en viens à la deuxième raison, c'est que c'est une façon incroyable de ce financement participatif d'inclure les gens dans le projet. Alors ça, oui, ça c'est dingue, ça c'est vraiment fabuleux parce que tout à coup, on a un relais, on a un réseau, les gens savent d'une manière assez concrète comment ils peuvent nous aider là-dessus. Alors ils le font avec leurs moyens et selon leurs besoins, leurs envies, etc. Donc les gens s'emparent déjà du projet en prenant connaissance et en se disant, moi j'ai envie de faire ça. Et ça envoie, troisième raison, ça envoie un message premièrement à nous en nous disant, vous êtes pas gourés et puis on est derrière vous. Puis ça l'envoie à tout le monde, en fait, nos partenaires financiers, à la banque, parce qu'évidemment, tout ça va se financer par des emprunts bancaires, par les mécanismes traditionnels, par le Centre National du Cinéma qui soutient l'exploitation à divers titres, et puis par les collectivités territoriales. Donc ça, c'est vraiment une façon d'inclure tout le monde dans le projet.
Pour l'Utopia Palmer, vous annoncez un cinéma de proximité alternatif, populaire et durable. Comment les préoccupations environnementales s'intégreront-elles dans votre projet ?
La première préoccupation environnementale, c'est qu'on s'intègre dans un parc de nature. Donc pour nous, ça, c'est ne pas perturber la vie du parc. Ça, c'est une conception, on part de l'extérieur, de l'enveloppe, on va dire. Donc il faut que ce cinéma ne soit pas une destruction visuelle, auditive, enfin ce qu'on veut de l'existant. Ce parc est magnifique, il faut le choyer, il faut continuer à l'entretenir comme c'est fait. Donc pour nous, si on fait des salles de cinéma, il est hors de question qu'on mette un néon devant pour perturber la vie du parc. Ça va, on a fait des études là-dessus, si vous voulez, c'est très bête. Donc pour nous, ça commence vraiment par là. Et faire du bruit, bah, il faut une qualité acoustique, parce que si vous entendez la musique du générique de fin du film quand vous passez dans le parc, non, ça va pas, c'est pas ça. Non, pour moi, l'idée du parc, c'est une vie qui est quand même paisible et qui a son autonomie. Il faut pas, voilà. Donc ça, c'est une première chose et on est assez attentif là-dessus. Ensuite, sur les matériaux de construction, on a des ambitions là qui sont très fortes en termes d'utilisation de matériaux qui sont biosourcés. Donc on peut aller chercher des matériaux qui sont locaux et du côté biologique, durable. Donc je pense au bois, je pense au chanvre, je pense à, voilà, tout un tas de matériaux qui sont comme ça, qui ont les qualités requises pour le projet, on va utiliser ces choses-là. Et puis, dernière chose, il y a un gros sujet par rapport à la consommation énergétique d'un bâtiment. Et alors là, effectivement, il y a des grandes ambitions aussi, parce qu'un cinéma, c'est quelque chose qui est assez difficile à refroidir. Une production qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une production de chaleur par les spectateurs quand ils sont devant le film, qui est assez forte. Donc, il y a un besoin en ventilation, voire en climatisation, qui est énorme. Une des premières réponses à apporter à ça, c'est que si votre salle, il y a 4 personnes dedans, mais qu'elle fait, je vais vous dire une bêtise, mais qu'elle fait 1000 mètres cubes, c'est pas possible, ça marche pas. Voilà, on peut prendre le truc par tous les bouts, ça marche pas. D'où l'idée de rester sur des salles qui sont modestes et mesurées, qui sont adaptées à leur fréquentation. Et puis alors là, on est sur le fonctionnement, on est vraiment adossé à des gens qui sont extrêmement compétents et très novateurs sur le sujet, le bureau d'études environnementales et nos architectes, pour essayer de nous faire des ventilations qui sont naturelles. Là, c'est très simple, hein, c'est quasiment ce qu'on appelle de la low-tech, hein, mais peu de technologie peut suffire, en fait. Hein, et quand on ouvre les fenêtres en partie haute, en interséance, ou peut-être même pendant les séances, si on trouve le moyen, avec des moyens simples, ça va nous faire circuler l'air vachement plus vite. Et puis c'est le vent qui va s'en charger. Donc on fait une étude sur les vents, où est-ce qu'ils sont positionnés, comment ils sont dominants, et puis on regarde comment on peut le faire circuler intelligemment dans le bâtiment. C'est des choses qui sont aussi simples que ça, mais qui, encore une fois, nécessitent un petit peu d'études. Si on arrive après avec ces questions, on a raté le coche. Mais on a une grosse partie des solutions qui sont à notre portée de main si on y réfléchit bien. Donc voilà, en termes de sobriété et de calcul énergétique, voilà, on a aussi cette volonté, donc sur les trois versants, sur l'environnement, sur la façon de faire le bâtiment et sur la façon de l'utiliser.
Plus généralement, les salles de cinéma constatent une baisse des fréquentations depuis plusieurs années. Certains professionnels du secteur n'hésitent pas à parler d'un danger pour l'avenir des salles obscures, ce qui ne vous empêche pas d'ouvrir donc 3 nouvelles salles dans la région. Vous ne croyez pas à cette crise du cinéma ou bien vous avez une confiance assez claire dans votre projet ?
Alors, soit on fait référence à une baisse qui est plus longue que la période Covid, soit on regarde la période de la crise qu'a représenté le Covid, qui est sérieuse et sévère. Si on se cale juste sur cette période, je pense qu'on espère pouvoir en sortir, puisque la fréquentation semble pouvoir revenir à un niveau pré-Covid depuis le début de l'année 2023. Si on regarde à une échelle plus large, la crise du cinéma non, moi j'y crois moyennement, en tout cas de quel cinéma, j'ai envie de dire, parce que si on parle des... Effectivement, il y a des crises du cinéma, mais il faut vraiment regarder dans le détail. Si on veut parler de ça en termes de fréquentation générale, les chiffres montrent qu'il y en a une stabilité, et ce qui nous vaut généralement en fin d'année une espèce de, comment dire, d'autosatisfaction du monde du cinéma en disant très très bien, ça marche, on a tenu les chiffres. Et si on regarde dans le détail, qui ? Et on voit que la concentration est énorme, en fait. Voilà, c'est ça, là, pour moi, la crise du cinéma, elle est là. S'il y en a une, c'est-à-dire que la fréquentation en salle va de plus en plus sur les mêmes films. Donc on a une tête de 10 films qui font 60% des entrées. Et ça, je pense que c'est un danger. C'est un danger pour la diversité. En tout cas, nous, c'est pas du tout notre façon d'envisager les choses. Et c'est ce sur quoi on travaille, en fait. Hein. Donc nous, on les passe pas, ces 10 films. Hein. De toute façon, on les a jamais passés à Utopia, mais on travaille plutôt sur l'autre versant. Et ce qu'il faut encourager, c'est la curiosité pour toute forme de cinéma, pour des choses qui n'ont pas forcément été vues, repérées. C'est le bouche à oreille, c'est des choses qui marchent différemment que l'impact de ces fameux films qui font l'année du cinéma. Là, je pense qu'effectivement, il y a un gros enjeu. Mais en fait, cet enjeu, il existe depuis très longtemps. Il s'accélère, simplement. Nous, on est absolument persuadés qu'il y a un public. Simplement, il faut continuer à travailler avec, quoi. Voilà, il faut pas proposer n'importe quoi. Il faut rester prescripteur, avoir une programmation qui est travaillée, avoir des conditions d'accueil qui sont travaillées aussi, c'est-à-dire continuer à... Nous, on est absolument fervent du contact humain, donc il ne faut pas du tout travailler de manière différente. Il faut continuer à être en contact, en fait, avec les gens et à nourrir. Pourquoi on va voir un film ? Voilà, c'est une idée qui est toute simple, hein, mais pourquoi vous allez voir un film ? Je pense que dans nos salles, dans nos textes, quand on écrit la Gazette, on essaye de dire la pertinence de ce que nous, on a vu dans les films et la façon dont ça peut nous toucher. Voilà. Bah, je ne dis pas qu'on est à l'abri de tout, hein, mais en tout cas, c'est notre réponse et jusqu'ici, elle tient. Et dernière chose, ça vient, c'est une pleine ligne de mire de ce qu'on envisage de faire à ce nom. Il n'y a rien sur la rive droite qui propose un cinéma de ce type-là. Il y a de la place pour ça. Il suffit qu'on le présente bien. Et je pense que le cinéma a encore de belles années devant lui. Ouais. People you love will turn their backs on you. You'll lose your hair, your teeth. Your knife will fall out of its sheath. But you still don't like to leave before the end of the movie. People you hate will get their hooks into you. They'll pull you down, you'll frown. They'll tar you and drag you through town. But you still don't like to leave before the end of the movie. No, you still don't like to leave before the end of the show.
Actuellement, on rentre dans le mois de juin 2023. Quel est le calendrier pour le projet Utopia Palmer ?
Alors là, le calendrier, c'est de bien travailler sur les financements et d'aller sur la fin de la phase de conception dont j'ai parlé d'ici la fin 2023. Donc en gros, nous, on continue notre travail grâce aussi au financement qui aura été récolté avec les architectes, avec les bureaux d'études autour de notre projet, de manière à avoir quelque chose de bien ficelé à la fin de l'année 2023, ou fin d'année 2023, début 2024, on va solliciter tous les financements possibles pour ce projet. Une fois qu'on a ces réponses-là, j'espère qu'elles seront bonnes, on fait tout pour. On passe à la phase de réalisation. Je refais la distinction entre la conception s'arrête et on passe en phase de réalisation. Donc là, on met au point, les budgets définitifs sont ficelés, hein, et on met au point un cahier des charges, une consultation des entreprises. On met tout le monde d'accord, a répondu à ces appels de projets et on essaye de démarrer les travaux en septembre 2024. Dans ce château, il y a beaucoup de choses à faire. On envisage entre 12 et 15 mois de travaux, ce qui nous mène aux alentours de l'automne 2025 pour une fin de travaux, avec une ouverture imminente. Une fois qu'on a fini les travaux, on ne perd pas de temps et on essaye d'inaugurer tout ça fin 2025, éventuellement début 2026, selon le chantier. Voilà le timing. Et alors, je précise aussi que le cinéma de ce nom sera main dans la main avec le cinéma d'Utopia Bordeaux. C'est pas deux établissements séparés. C'est trois salles de plus, quoi. Donc, trois salles de plus, c'est autant de propositions intéressantes supplémentaires à faire. On change rien à Utopia Bordeaux. Utopia Bordeaux ne va pas déménager, ne va pas vendre une salle à H&M ou je ne sais quoi. On garde tout ça. On travaille intelligemment à rajouter de l'intérêt en ajoutant trois salles plutôt que de l'éparpiller.
Vincent Erlenbach, merci. Comment suivre vos actualités et soutenir le projet de l'Utopia Palmer?
Le soutenir, on peut toujours le faire sur Ulule ou en direct au cinéma jusqu'au 28 juin. S'informer, il y a quelqu'un dans le hall tout le temps qui est capable de vous parler de ça. Je le répète, c'est les 11 salariés d'Utopia Bordeaux qui font partie de l'aventure, donc on est tous impliqués. Nous envoyer un message, en parler autour de soi. Voilà, ça c'est une façon de suivre les choses et de continuer à communiquer là-dessus. Évidemment, les bonnes idées sont les bienvenues, les coups de pouce, c'est toujours des choses. Voilà, le facteur humain, j'en reviens là. Mais nous suivre et voilà, vous pouvez toujours aller sur Ulule évidemment pour soutenir, mais plus on en parle entre nous, plus on fait aussi le travail qu'on fait maintenant, humain, c'est-à-dire qu'on se rencontre et on en discute, plus ça permet aux gens de matérialiser quelque chose et de se dire est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça n'en a pas. J'ai l'impression qu'on nous dit que ça en a.
Merci Gabriel Taïeb, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'Actu dans la Poche. Merci d'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garay-Cochea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'Actu dans la Poche.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.